Donc, bonsoir à tout le monde. Du coup, le sujet proposé pour ce soir, effectivement, touche à l'Église. En parlant de la croissance de l'Église ou dynamique de croissance de l'Église, j'aimerais juste resituer le contexte de pourquoi ce sujet. Il y a plusieurs choses. Ça fait 2 ans, dans le cadre des cours de l'IEB à Saint-Julien, qu'avec Guillaume, dans les sujets qui sont relatifs à l'Église, on a intégré un cours sur cette thématique auprès des étudiants. Et puis, dans le cadre de l'expérience de vie d'église que j'ai l'occasion de vivre avec ma famille sur Marseille, ça fait quelques années aussi qu'on réfléchit à ce type de sujet. Donc, je ne suis pas là ce soir en disant « j'ai tout compris » ou « je vous amène le mode d'emploi » ou « des leçons ». Je n'ai aucune leçon, encore plus dans ma position et mon âge, à vous donner. Simplement, c'est un partage de réflexions. Et c'est vraiment juste à ce niveau-là que j'aimerais situer le partage de ce soir et pas plus. Donc, en abordant ce sujet, je vous propose un petit plan pour ce soir concernant ce sujet. J'aimerais commencer par des notions bibliques de croissance, sur la croissance de l'Église. Et puis, ce qu'on constate, ce que j'ai aussi constaté dans ma vie d'Église, c'est que par rapport à cette notion de croissance et de dynamique qu'on désire tous pour nos églises, il y a un certain nombre de problèmes auxquels on a à faire face dans notre réalité. J'aimerais parler de quelques priorités, c'est à la base une réflexion d'un livre qui est paru il y a assez peu de temps. Et puis proposer quelques outils, ça reste des exemples, et pas plus, quelques outils, et ça reste au statut d'outils qui peuvent éventuellement être mis en place dans des églises à ce sujet, et puis éventuellement quelques livres. Donc, notion biblique sur ce sujet. Souvent, quand on parle de croissance, déjà, arrivent deux types de croissance. On parle soit de numérique, de croissance numérique, ou de croissance en maturité ou en qualité. Et on a, il me semble, tendance à vouloir souvent trop opposer les deux dans nos milieux évangéliques. On formule des phrases plutôt du type « bon, ben, ce qui compte surtout, c'est la croissance peut-être en qualité plutôt que le nombre, on veut de la qualité plutôt que effectivement du chiffre ». Et si je viens à vous dire, ou si quelqu'un vous dit « moi, dans mon église, tous les dimanches, on fait un tableau et on compte le nombre de personnes », quelque part, il y a quelque chose qui va vous gêner dans ce type de pratique. Et on pourra même argumenter quelques références à la peur de tomber dans les fautes de David, du référencement, le fameux recensement de la population qu'on voit dans le dernier chapitre du livre de Samuel, qui est un peu troublant, effectivement, comme situation, surtout que l'explication du pourquoi de la faute exactement n'est pas explicite directement dans le texte. Simplement, si on regarde quand même dans les textes, et notamment dans le Nouveau Testament, et si on se met à lire le début du livre des Actes, notamment quand on voit cette naissance de l'Église et cette expansion de l'Église après l'envoi missionnaire fait aux apôtres par le Seigneur Jésus, les expressions ne manquent vraiment pas pour parler explicitement de croissance, même ils ont osé des chiffres. S'il y a des chiffres, c'est que quelqu'un a osé compter. On peut parcourir quelques-uns de ces versets. Si je prends le livre des Actes, et après le discours de Pierre, par exemple, dans le chapitre 2, on a facilement ces expressions, verset 47, « Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui étaient sauvés. » Puis il y a un deuxième discours qui passe, et je peux lire au chapitre 4, verset 4, par exemple, « Mais beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. » Et là, on a même une notion chiffrée à un autre endroit, juste un peu. On a même l'autre chiffre de 3 000. Si je vais au chapitre 5, on continue dans ce chapitre. « Mais le peuple, au verset 14, « le peuple les louait hautement, et des croyants d'autant plus nombreux étaient ajoutés au Seigneur, une multitude aussi d'hommes que de femmes, etc. » De sorte qu'il y a plein de choses, et même il faut commencer à organiser cette église. Chapitre 6, comme un espèce de refrain qui vient dans le livre des Actes. « En ces jours-là, comme le nombre des disciples se multipliait, etc. » Il y a des choses à s'organiser. On voit d'ailleurs l'opposition qui commence. Hein. Cette croissance de l'Église ne fait pas plaisir à tout le monde. Et on voit le malin, on voit Satan se déchaîner dans ces chapitres également. Toujours dans le chapitre 6, même au verset 7, « La parole de Dieu croissait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » C'est vraiment un thème qui parcourt le livre des Actes, en même temps que la progression géographique qui part, comme l'envoi missionnaire, de Jérusalem, de la Judée à la Samarie, et puis on va se répandre dans le monde païen et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans le livre des Actes, la pointe, c'est la capitale de l'Empire, ça va être d'aller comme ça jusqu'à Rome. Je cite encore un verset en exemple, 9, verset 31, mais on pourrait en ajouter. « Les assemblées donc par toute la Judée, la Galilée et la Samarie étaient en paix, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur, et elles croissaient par la consolation du Saint-Esprit. » Donc cette notion de nombre croissait, se répandait, augmentait, se multipliait, le nombre des croyants progressait. On a même à la fin, au chapitre 21 des Actes, la notion de myriade de juifs qui se sont convertis, donc c'est des milliers de milliers au sens littéral du mot. Donc on voit une croissance chiffrée qui augmente en même temps que cette croissance géographique. Tout ça pour une réalisation d'un plan divin, c'est une programmation par Dieu de croissance de l'Église, afin que tous les peuples et toutes les nations louent le Seigneur, comme le dit le psaume 117. Qui est acteur dans cette croissance? Bien sûr, et je viens de le lire dans le dernier verset que j'ai lu, une croissance par le Saint-Esprit, par l'action de Dieu qui est là, qui a programmé tout ça, qui est là comme acteur principal de cette croissance. On le lit dans cette diffusion pour aller vers les nations. Il va falloir de l'envoi missionnaire au chapitre 13. C'est le moment où Paul et Barnabas vont être mis à part dans l'église d'Antioche. Et l'expression qui est employée pour mettre à part, ils sont choisis et on voit l'action du Saint-Esprit lui-même, puisque c'est le Saint-Esprit personnifié complètement, puisque c'est le Saint-Esprit, deux points, qui dit de mettre à part les choses. On voit l'action de Dieu direct sur le plan de propagation et de diffusion de cet évangile. Et en même temps, on y voit l'utilisation de dons et de compétences que Dieu a donné aux hommes. On voit quelque chose de stratégique aussi, de quelque chose qui réfléchit. En acte 19, quand on lit les discours de l'apôtre Paul, qui est par exemple à Athènes, en train d'évangéliser à Athènes, le discours est d'une haute stratégie. Il tient compte de son auditeur à un très haut point. C'est là qu'il va parler du Dieu inconnu à Athènes, qui rentre complètement dans le contexte de la pensée grecque de l'époque. Et il va s'adapter de manière extrêmement stratégique. Tous les mots qu'il va dire sont pesés et ont un but stratégique dans cette stratégie d'évangélisation. Et on voit donc vraiment quelque chose d'indissociable de l'action de Dieu et de l'action de ses serviteurs, avec au centre les apôtres conduits par le Saint-Esprit, qui vont utiliser la sagesse et l'intelligence données par Dieu dans tout ce processus. En termes d'image, quand on parle d'Église, presque on dirait que la définition de l'Église dans le Nouveau Testament est une succession d'images qui nous permettent de comprendre tout un tas de facettes de la réalité. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Des images comme l'épouse, le troupeau, la famille, qui reviennent, et on a toute une collection d'images qui nous permettent de mesurer, mieux qu'une définition en deux lignes, finalement, qu'est-ce que c'est au fond que l'Église. Et en termes de croissance, on a des belles images qui se rapportent à l'Église. Si on parle de croissance numérique, on va avoir la question de l'édifice qui s'élève, où chaque pierre de l'édifice, de ce temple, ou cet édifice qui se construit, représente quelqu'un qui est ajouté à l'Église, quelqu'un qui se convertit, qui sont chacune de ces pierres vivantes que constitue l'Église. On a ce verset d'Éphésiens 2. « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » J'ai mis l'image de la Sagrada Familia de Barcelone là-dessus, qui est une belle image de tout ça, un édifice en construction depuis combien d'années ? Et qui est en train de prendre toute sa splendeur. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller assez récemment. On commence à être très très impressionné quand on rentre maintenant dans la nef principale. Un édifice absolument splendide, qui pour son architecte de base, pour la gloire de Dieu. C'est en parallèle de l'image, si on prend l'image, si cet édifice en construction serait l'image d'une croissance numérique de l'Église, on a une belle image pour la croissance en maturité dans l'image du corps et de la croissance du corps. Alors avec nos données biologiques modernes, on imagine chacun des personnes comme des membres ou des cellules là, qui interagissent dans ce corps. L'image va même plus loin que sans doute la pensée de l'apôtre. Mais dans ce corps qui grandit, qui mature, qui passe d'un bébé à un état d'être adulte, on a une magnifique image de la croissance en maturité, une croissance collective de l'Église. Éphésiens 4, verset 16, c'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné, uni grâce à toutes les articulations qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Si je reprends d'ailleurs ce passage d'Éphésiens 4, en remontant un tout petit peu, juste avant ce verset 16, le passage est en fait richissime de données sur la croissance, qu'on peut mélanger numérique et croissance en qualité, en maturité. On a énormément d'indices, d'éléments qui constituent qu'est-ce que c'est que cette bonne maturité si on le place dans le corps collectif qu'est l'Église. Alors, on va, si vous avez des Bibles, je vous invite à les ouvrir en Éphésiens 4 et on va relire ce passage. On est juste après un passage où l'apôtre nous parle effectivement de dons qui sont faits aux hommes et qui sont au bénéfice de personnes et de différentes qualités différentes de personnes qui vont être au bénéfice collectif de l'Église. Et on a finalement un but dans l'image parfaite de la croissance en maturité de l'Église à partir du verset 13. Après, après avoir listé ces dons de pasteur, docteur, etc., qui sont pour l'édification, donc la croissance du corps de Christ. Et à partir du verset 13, on a ces notions-là. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés çà et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, pour leur habileté à user de voies détournées pour égarer, mais que gardant la vérité dans l'amour, nous croissions en tout jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, de qui tout le corps, bien ajusté et lié ensemble par toute jointure qui le soutient, produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure la croissance de ce corps pour être lui-même édifié en amour. Alors le passage est extrêmement riche d'expressions. Et si on découpe un petit peu ce que j'ai fait sur cette diapositive, on démarre avec quelque chose où la croissance a permis d'arriver à une unité de la foi. Il y a quelque chose dans lequel le projet collectif est centré, c'est pas le club de pétanque ou l'objectif, ou c'est pas juste un club avec un objectif particulier, c'est ni un syndicat ou un club professionnel. Il y a une unité particulière qui est centrée sur cette unité de la foi. La foi, on pourrait, dans ce contexte, non pas la définir uniquement par la notion de faire confiance ou la foi qui sauve, mais comme l'ensemble des vérités fondamentales bibliques qui constituent le cœur de l'Évangile. Au centre de ça, les vérités bibliques. Dans cette expression, l'unité de la foi, il y a quelque chose qui nous centre sur où on a la garantie d'avoir cet ensemble de ces vérités, le centrage sur la Bible. Il y en a comme dans un indice de qualité, un indice de qualité de croissance, la valeur Bible qui est un élément central. Je fais juste un exemple de raisonnement. Vous auriez une église dans laquelle la Bible n'est pas au centre, on ne commente jamais la Bible, on n'expose pas jamais les vérités bibliques, mais on parle d'autre chose, peut-être de bonne moralité, il y a un problème. Il y a une église qui serait absolument dysfonctionnelle. Cette Bible sur laquelle comme fondement sur lequel s'appuie notre enseignement et notre conduite. Expression d'après, parvenu à l'unité dans la connaissance du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Notre foi, ce n'est pas la foi en n'importe quoi, c'est la foi centrée sur Jésus-Christ. Une Église, il est essentiel qu'elle soit absolument christocentrique, qu'elle soit centrée sur Jésus-Christ. Je pense au contenu des cultes, je pense au contenu du but des réunions d'assemblée. Ça m'est arrivé de vivre une expérience de vie, alors pas de vie d'église, mais une expérience de culte dans une église que je n'avais pas l'habitude de fréquenter, où le nom de Jésus-Christ n'a jamais été mentionné en un seul culte. Et là, ni dans les chants d'ailleurs, ni dans rien du tout. Il y a quelque chose forcément de très dysfonctionnel. Parvenu à l'état d'homme mature et la mesure de la stature parfaite du Christ, croître vers la tête, c'est repris. On a quelque chose qui est non seulement christocentré, mais le but de l'Église est centripète. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est directionnel. Ce n'est pas juste pour passer un bon moment les uns avec les autres, la vie d'Église, mais il y a quelque chose qui est centré sur Christ. Plus des enfants, et on voit le texte qui parle évidemment dans ce but, de ne pas être emporté par n'importe quoi, par n'importe quel vent de doctrine, par n'importe quelle idée moderne ou ancienne revenue à la mode. La notion de formation, la notion de solidité là-dedans, mais qui implique que non seulement la Bible soit au centre, mais qu'elle soit intégrée par les membres de l'Église, les gens qui fréquentent, et encore plus par les responsables de l'Église. La notion de formation est importante là-dedans, ce qui signifie qu'il faut s'assurer que ces notions bibliques soient intégrées. Ce n'est pas juste une idée. Les responsables de l'Église doivent être en mesure de pouvoir défendre, Bible en main, les choses, les vérités fondamentales de la foi, devant effectivement des déviances possibles. Ce n'est pas juste une question de bonne volonté, où on est bien ensemble, on vit l'amour. Il y a une question de solidité aussi, de la formation. À plusieurs fois, reprend, qui exprime la vérité dans l'amour, les notions de vérité, l'amour revient deux fois dans le passage, des valeurs comme l'accueil dans une église, l'amour en action, c'est-à-dire un amour qui n'est pas juste dans les paroles, mais qui se traduit entre les frères et sœurs dans l'église et les gens qui passent le pas de la porte d'une église par du concret, c'est évidemment quelque chose qui est un signe de maturité dans l'église. Et on a cette notion à la fin de croissance coordonnée, qui tient compte de tous les membres. Le corps, il ne croit pas juste parce qu'il y en a un petit groupe qui va très vite et qui progresse et qui est le groupe spirituel de l'Église. Et puis, il y a tout le reste de l'Église qui est à la traîne. Il y a une notion de croissance coordonnée pour montrer qu'il y a de la maturité. On vit, dans la majorité de nos Églises, une certaine collégialité dans la façon de gérer, d'administrer l'Église. La question de travail en équipe est quelque chose de très important dans cette coordination. Et un vivre ensemble de communion fraternelle qui est effectivement très important. Et on a tout ça, ces notions de valeur, Bible, foi chrétienne, formation, accueil, amour en action, travail d'équipe, vivre ensemble, qui sont des notions de traduction de maturité, de qualité de vie d'Église, qui sont ici encouragées dans ce passage d'Éphésiens. Je l'ai schématisé d'une autre manière. C'est comme si un petit peu on passait de l'état immature, d'un bébé, une église naissante ou une église convalescente qui peut être et qui a besoin de cette croissance coordonnée, qui est basée sur un fondement, foi et connaissance de Jésus-Christ et qui, par la proclamation de la vérité, la manifestation sur l'amour, croit par et pour le Christ. Quand on a quelque chose qui croit, ce qu'on voit de plus en plus, c'est la tête. Il est très important que Christ garde la position de tête parce que plus le corps sera grand, plus on verra la tête et plus on manifestera quelque chose à la gloire de notre Seigneur. Alors, ça, c'est notre motivation profonde et c'est notre encouragement de vivre ça. On sait très bien que dans notre quotidien, on vit des expressions, et de grands nombres d'églises vivent des expressions de cette maturité, mais on rencontre un certain nombre de problèmes et de difficultés qui limitent cette croissance. Alors, il y a une espèce d'enquête, alors c'est presque scientifique, c'est une enquête qui a été faite dans les années 90, c'est un monsieur qui est connu, un Allemand, Christian Schwarz, qui a écrit plusieurs livres sur la croissance de l'Église. Je le citerai non pas pour tamponner et approuver tout ce qu'il a écrit ou tout ce qu'il a dit, mais il a fait quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a fait une grande enquête dans les années 90 auprès de plusieurs milliers d'églises sur tous les continents, avec tout un questionnaire, avec des tas de questions, et ils ont essayé de relever, comme ça, par l'expérience, finalement, un peu un nombre d'items de favorables à la croissance. Et ils en ont, avec son équipe, retenu 8. Alors, ils ont constaté que des choses qui sont favorables à la croissance, et vous allez voir combien ça rejoint quand même des items de ce qu'on a tiré du passage d'Éphésiens, des items qui sont, paraissent importants. Une église dans laquelle les responsabilités ne sont pas déléguées, je vais le dire au négatif pour parler de problème, une église dans laquelle un certain nombre de personnes ont effectivement une expérience, etc., mais il n'y a pas de vision de transmission. Il n'y a pas de délégation possible. On a beaucoup d'églises qui fonctionnent sur un modèle pastoral strict, avec un pasteur qui régit et qui fait toute la vie d'église. Et puis on a des gens qui viennent écouter le dimanche. Je caricature un extrême, mais dans ce modèle-là, en général, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Et ce n'est pas quelque chose, en général, qui est très favorable. On peut avoir tout à coup quelqu'un qui est très charismatique au sens de quelqu'un qui est très une aura particulière du pasteur, et l'église va fonctionner. Et puis, quand on va changer de leader, de capitaine de bateau, tout ça s'effondre parce que tout est lié non pas à Christ, mais c'est lié à la personne qui est un petit peu le... On vient pour cette personne et non pas pour Christ. La question de responsabilité déléguée, c'est important. Le service selon les dons. Effectivement, une église dans laquelle... le mieux, c'est que je donne un exemple concret. Bon, il y a des églises où il y a des instruments de musique, où on chante. Mais vous imaginez la personne qui entonne dans une église, qui entonnerait un chant et qui ne saurait pas chanter, qui chanterait tout le temps faux. Ce n'est pas une question d'amour, ce n'est pas une question de mauvaise volonté, ce n'est pas une question de cette personne, elle n'est pas moins chrétienne que les autres membres de l'Église parce que tout à coup, elle chante faux dans l'Église. Simplement, la notion de ce que Dieu lui a donné en termes de qualité, ben, c'est ça la diversité. Tout le monde ne va pas faire la même chose dans l'Église et il est important que comment ça se répartit dans l'Église, les choses qui se fassent selon ce que Dieu a donné. J'ai pris l'exemple du chant, c'est assez caricatural, mais tout le monde n'est pas dans la capacité d'enseigner dans les églises. Tout le monde n'est pas capable de s'occuper d'enfants dans une église, etc. etc. Et ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est au contraire la diversité. Et il y a de la place pour tout le monde dans une église. Par contre, si on ne fait pas attention à ça, ça peut devenir très vite compliqué. La question d'une église où il n'y a pas de joie et d'enthousiasme, on y vient évidemment en reculons, ça, c'est un problème. Des structures efficaces, on peut, ok, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un minimum d'organisation, alors en fait une église, si on est 10, si on est 20, ou si on est 150 ou 400, ça ne peut pas fonctionner exactement pareil en termes d'organisation. Quand on a un petit groupe, on s'adapte et on peut fonctionner, et en France on est très bon pour le système D, et pour improviser. Par contre, il y a un moment où ça a des limites, en fait, dans la structuration des choses. La notion des cultes est très importante. La réunion hebdomadaire de l'Église publique, le culte public de l'Église, est quelque chose où tous nos concitoyens sont invités à rentrer et à venir. Ou bien c'est l'endroit où on va faire venir un ami, un voisin, un collègue de boulot, etc. Et donc, ce qui va se passer pendant ce culte, c'est très important. J'ai pas dit culte spectacle, hein. J'ai dit culte édifiant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui en ressorte. Si on ressort du culte et il y a OK, on en ressort comme on en est rentré, il y a quelque chose de difficile. Ou pire, on en ressort avec plein de mauvaises pensées parce qu'il y a des tas de problèmes dans l'Église et en fait, on a passé le temps des chants à se fusiller du cœur. C'est compliqué. La notion de groupe de maison, j'en reparlerai un petit peu plus loin, c'est effectivement dans la vie collective de l'Église, ça peut être un outil qui n'est pas obligatoire, mais qui est quelque chose évidemment qui est intéressant. La notion d'évangélisation adaptée, évidemment, est aussi quelque chose d'intéressant. Les relations amicales ont aussi été relevées. J'encadre tout ça parce que tout ça, c'est juste des observations. Ça vient du bon sens, ça vient de tas de choses, et on pourrait beaucoup relier certains de ces éléments à ce qu'on a dit dans Éphésiens. J'encadre ça avec deux grands piliers quand même. Parce qu'il peut y avoir tout ça, s'il n'y a pas le christocentrisme, ben, il y a un gros problème. On peut avoir des églises qui peuvent vivre tout ça, et peut-être plusieurs milliers de membres. Mais si ce n'est pas centré sur Christ, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et la deuxième pilier que je mets, on pourrait le montrer à travers à la fin de l'Épître aux Éphésiens, entre chapitre 5 et chapitre 6, la centralité de la vie de prière. Alors ça, c'est, bah, tout le monde va dire c'est évident, on sait très bien que pour notre vie de croissance personnelle, la vie de proximité avec le Seigneur est essentielle. Mais c'est peut-être un des trucs qu'on a le plus de mal à vivre. Et même collectivement, quelle est la réunion commune de l'Église qui attire le moins de personnes? Si je fais des comptes, malheureusement, statistiquement, quand vous annoncez réunion de prière, ce n'est pas en général l'endroit où il y a le plus de monde. On fait une agape, on fait un événement, on fait un truc événementiel, où il y a un concert de gospel à l'église, on invite gospelment votre, en général, on remplit la salle. Mais vous faites la réunion de prière, c'est souvent compliqué, parfois décourageant pour les gens qui essaient d'être fidèles là-dedans. En même temps, peut-être qu'il y a des choses à réfléchir là-dedans, mais peu importe, j'ai envie de dire la façon dont ça peut se faire, il y a une vérité qui reste là, c'est que la vie de prière de l'Église, elle est essentielle. Souvent, il faut un petit peu des électrochocs pour que collectivement, on se dise il y a un vrai intérêt à la vie de prière collective. C'est souvent quand une Église vit des drames, peut-être dans la maladie, peut-être dans des troubles de division ou de malentente, peut-être parce qu'il y a un projet collectif qui a réussi et dans lequel on sent qu'on est impuissant. En fait, c'est chaque fois qu'on se rend compte que par nous-mêmes, on n'aura pas la force d'avancer, que là, on se retourne vers la prière. Ça nous rappelle une vérité fondamentale que, en fait, la croissance de l'Église, tant qu'on ne réalise pas que ce n'est pas nous qui la faisons, et que c'est par la force, et que ce n'est pas avec nos propres forces qu'on va tirer une Église, etc., et bien, en fait, on n'y arrive pas. Le constat de besoin de grâce, et de besoin de l'aide du Seigneur, et que c'est par lui que la croissance va se faire, est complètement essentiel. Et ça va se traduire dans une vie d'Église, dans une vie de prière qui peut être renouvelée. Une vie prière qui va apprendre en réalité, en sincérité, en intensité. Et c'est souvent un bon signe de ce qui se passe peut-être dans une église. Dans les choses, puisque je suis en train de dire les choses qui ne vont pas, ou les obstacles, le parallèle à ce constat de dire qu'en réalité, sans la force du Seigneur, on est incapable individuellement, collectivement, d'être moteur de cette croissance, et qu'on va s'y épuiser si on le fait de cette manière-là. L'opposé, c'est ce qui va nous centrer sur nous-mêmes. Je ne sais pas si. Alors, vous connaissez Astérix et Obélix, ça j'en suis sûr, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de cette BD-là spécifique, La Zizanie. Entre Astérix et Obélix, vous avez un personnage qui s'appelle Détritus, là, le petit personnage qui ricane, et il a un don, il a une qualité absolument exceptionnelle. Qui va le faire embaucher par César pour essayer de semer la discorde dans l'irréductible village gaulois, c'est qu'il est capable d'adapter à chaque personne la corde sensible qui va toucher à son orgueil. Il est capable d'identifier, à peine avoir rencontré une personne, exactement le point sensible qui touche la pointe de ce qui va nous sensibiliser au niveau de notre orgueil personnel. Et de suite, il trouve, et il va sortir la phrase qui va nous mettre hors de nous. Et il sème la zizanie. C'est absolument exceptionnel. Comment c'est décrit? Et oui, un gros problème dans notre avancée ensemble, c'est quand même notre problème d'orgueil. Et c'est notre manque d'humilité dans notre manière collective, finalement, d'avancer. Philippiens 2 nous le rappelle et nous le met en premier par rapport à les questions d'unité, notre question de vivre ensemble. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement? Par l'esprit, une communion entre vous. N'avez-vous pas de l'affection, de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non à ses propres qualités, mais à celle des autres. Et le passage qui suit, c'est l'exemple magistral du Christ et de l'humilité du Seigneur dans la suite du passage, dans un des passages les plus connus de Philippiens. Il y a quelque chose qui est d'autant plus difficile à vivre quand on fonctionne dans un mode d'église tel que une grande partie d'entre nous vivons, dans le côté collégial de fonctionnement d'église. Si vous êtes tout seul dans une église à piloter, c'est vous avec vous-même. C'est pas vrai, mais il y a quelque chose des fois de plus facile à fonctionner que quand on veut faire du collégial. Et le collégial, ça demande de mettre ça en avant, et sans cette humilité, ça fonctionne absolument pas. Alors c'est un peu comme ça. J'ai repris les expressions du passage que je vous ai lu. Christ, toujours en haut, toujours la tête. Le premier verset parlait du Saint-Esprit et de l'amour. Et on avait finalement toutes ces expressions. Hein. Compassion, communion, consolation, affection, assistante, encouragement, soulagement, miséricorde, bonté, qui sont contenues dans différentes traductions, en réalité, des mots grecs qui sont employés dans le passage que je vous ai lu. C'est tout contenu. Et là, vous avez les membres de l'Église, c'est vert, tout va bien. Et vous voyez qu'ils sont tous un peu pareils. Puis s'il y en a un ou deux qui prennent, alors ça permet d'être... Ça n'empêche pas d'être centré sur Christ. Évidemment, si l'esprit de rivalité, la recherche de Wengler et l'orgueil de la vie entrent, c'est comme s'il y en a un qui prend un peu plus, un peu plus de place là-dedans. Et dans ce faisant ça, ben, j'attire un certain nombre de flèches vers moi. Enfin, on attire des flèches vers le rouge. Mais si on attire des flèches de plus en plus vers le rouge, ben, la flèche est de moins en moins vers Christ. C'est là que le départ des clans, le départ des factions dans l'Église, évidemment. Et en faisant ça, vous faites des clans, mais en général, il n'y a pas de croissance. Même en général, vous perdez, que ce soit en numérique ou en qualité, en général, ce n'est pas bon pour la vie d'Église. Alors bien sûr, tout ça, j'apprends rien. On le sait tous, j'ai envie de dire, tout ça. Il y a une autre catégorie de problèmes induits par la croissance d'Église qui sont induits quand ça va bien. C'est-à-dire qu'une Église qui est en croissance, elle aussi va rencontrer des questions, des problèmes. Ou même une Église qui a une motivation. Ensemble, on est vraiment motivé vers un projet collectif et centré sur Christ. Ça, les Français, on connaît bien le problème du changement. C'est que nécessairement, un projet a un sens, ça veut dire qu'on va faire exactement... Une Église qui croit, ce n'est pas la même que, effectivement, une Église... Une église à 30, ce n'est pas une église à 100, etc. Et ça ne peut pas fonctionner exactement pareil. On ne peut pas vivre exactement la même chose. Et les obstacles au changement, c'est une vraie problématique. Ça veut dire qu'on a besoin d'y faire attention. Et on est tous différents face aux problèmes de changement. Il y a des fonceurs, ça ne leur pose jamais de problème. Ils ont une idée à la minute, ça ne leur pose jamais de problème. Puis il y en a d'autres parmi nous, pareil. Ils n'ont pas de problème, ce n'est pas une question de spiritualité, etc. Mais eh ben, c'est plus dur de changer. Honnêtement, on a plus de mal. Eh ben, il faut en tenir compte. Ça veut dire que dans la notion de mise en place des choses, eh ben, il va falloir en tenir compte de chacun, de celui qui va trop vite et de celui qui, au contraire, reste un peu trop bloqué. Les problèmes de crise de croissance. Ça vient même d'études, d'observations aussi dans les églises. On a des questions de seuil. Je vais parler de seuil relationnel, par exemple. On a besoin de vivre une communion fraternelle dans les églises. Et il y a des moments où ce n'est absolument pas possible de pouvoir être en relation avec tout le monde dans une église. On l'avait discuté avec Guillaume lors du cours, et il y a des études qui disent à peu près que chacun d'entre nous, c'est une moyenne, etc., mais on a du mal à dépasser la plupart d'entre nous entre 100 et 150 personnes. Dans un réseau relationnel assez étroit. C'est-à-dire que on n'est normalement pas capable, au-delà de 150 personnes, d'entretenir des relations régulières, réelles, sincères, avec un peu plus de personnes. Alors, il y en a qui font plus, il y en a qui font moins, mais ça veut dire qu'il y a des moments, ce n'est pas possible. Vous êtes dans une église, il y a 200 personnes, on ne peut pas se dire bonjour à tout le monde à la sortie de l'église. Ça veut dire que le fonctionnement de cette église, si elle ne réfléchit pas à comment vivre à 200 la communion fraternelle, ça ne marchera pas. Alors, vous pouvez me dire, ils n'ont pas qu'à être 200. Ça, c'est OK. Mais il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu là-dedans. Et forcément, on doit en tenir compte. Et une église qui passe même de 30 à 60 ou de 50 à 100 personnes en quelques années, c'est un gros chamboulement. On peut dire gloire à Dieu, merci. Hein, on voit l'action de Dieu dans l'église. C'est une église qui va bien. Mais en fait, si elle ne prend pas la mesure aussi de s'adapter à ça, ça risque de poser des problèmes. Les problèmes du relationnel, bien sûr, on en a parlé, c'est lié, hein, je viens d'en parler. Le problème de l'orgueil, d'autant plus dans une église où tout va bien. On a très vite tendance à aller donner les leçons, et alors je suis le premier à vous parler ce soir, à dire en plus des choses sur la croissance de l'église, et dire, il y a la menace énorme de l'orgueil, de dire, ah ben moi ça marche bien dans mon église, regardez, je suis donneur de leçons, et je suis pas, il n'y a pas patatrac demain. C'est une église qui va bien est menacée par le problème de l'orgueil. C'est une évidence. Alors que quand ça va pas dans l'église, on a tendance plutôt à avoir la tête un petit peu basse. Et voilà. Merci. Ouais.
Merci. Donne pas plus, sinon
ouais, c'est parfait.
Tu vas parler trop longtemps.
Ouais, tu as raison, merci. Du coup, un peu lié à ça, quand on est plus nombreux ou que l'Église, il y a forcément aussi une question de priorité. Dans les choses à faire, entre guillemets, dans une Église, il y a un peu des incontournables. La parole de Dieu doit être prêchée, il y a un culte qui doit se dérouler tous les dimanches. Il y a un certain nombre de trucs qu'il faut s'occuper des enfants, quand il y en a. Il y a tout un tas de choses qui sont des incontournables. Mais il y a tout un tas de trucs qui sont optionnels. Il y a une église qui fait une rencontre des hommes ou des maris. Il y a une église qui a des rituels avec des événements dans l'année à Pâques ou un spectacle de Noël. Il y a des tas de choses dans une vie d'église. Simplement, en fonction de combien on est, on ne peut pas tout envisager. On ne peut pas avoir chacun individuellement un projet. Alors, soit l'Église devient l'endroit où juste un certain nombre de personnes hyper investies dans la vie de l'Église internationale, de l'Église universelle de Dieu, sont impliquées dans un tas d'associations, dans un tas de missions, etc. Et finalement, il y a un point géographique de rencontre de dimanche, mais en fait, on n'a pas d'autres projets ensemble. Ça aussi, malheureusement, ça peut arriver. Et à ce moment-là, c'est chacun qui est infisté. Soit quand on veut faire des choses ensemble, on est obligé de définir des priorités. On ne peut pas tout faire ensemble. Et ça, ça va se réfléchir. C'est quoi les dons dans l'Église? Quelle est l'identité de mon Église locale? Qu'est-ce qu'on a de particulier? Ce n'est pas pareil une Église qui est en plein centre de Marseille qu'une Église qui est à Cré, ou qui est à Digne, ou qui est à Paris. Ça ne peut pas être les mêmes Églises. Et dans la façon dont va se vivre concrètement la vie d'Église, ça ne va pas être la même chose. Simplement, il faut le réaliser, il faut le penser. Ce n'est pas une église qui vient de naître d'une implantation, d'une église qui a 150 ans d'existence. Il y a une historique, il y a des choses à tenir compte, il y a un passé, et on doit en tenir compte aussi. Donc tout ça, il faut le poser. Si c'est qu'implicite, eh ben, une nouvelle personne ou un nouveau couple qui va rejoindre l'église ne va pas le comprendre. Et au bout d'un moment, on ne va pas s'entendre, parce que on n'a pas compris qu'est-ce que c'est qui faisait cette spécificité de notre église locale. Du coup, les priorités, forcément, vont avoir quelque chose d'important. Alors, je fais un lien avec la troisième partie, très rapide, mais la question de priorité, justement. Je ne vais pas vous dire c'est prioritaire de faire qu'il y a un groupe de louanges ou qu'il y a un... Non. Par contre, il y a quelque chose qui a été bien exprimé dans un livre qui a été publié par des Australiens il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « La vigne et le treillis ». Et c'est intéressant parce qu'il propose d'utiliser cette image pour définir, montrer un peu la vie d'une église. Dans une église, effectivement, il y a la vigne, et puis il y a une question de treillis. On comprend que le treillis, c'est la question de structuration de l'église, une certaine logistique, une certaine organisation, c'est donner des rendez-vous. On sait qu'à telle heure, il y a tel culte, c'est à telle heure, etc. Ça se passe un peu de cette manière-là. On a forcément des choses d'organisation. Donc, il y a une question logistique. Plus l'Église grandit, plus la logistique, c'est comme l'administration française, plus vous mettez des étages de réunions, parce qu'il faut organiser à la rentrée les réunions de tous les groupes, et puis après, on fait des bilans, et puis si on veut bien faire le suivi de ces travaux-là, il y a de plus en plus de réunions. Vous faites des étages, et il y a un risque énorme que le côté treillis deviennent absolument prédominants. Et puis, le problème, c'est qu'on en a chacun, on a des emplois du temps, on a des vies de famille, des vies professionnelles, etc. Et il y a un temps qui est incompressible. Ça, on n'y arrive pas. Dans l'éternité, on n'aura plus la notion de temps. C'est peut-être un des plus grands miracles de la vie éternelle, de ne plus avoir la notion de temps. Mais actuellement, on est limité par le temps. Et sur cette vigne, le but, ce n'est pas qu'il y ait un treillis. Le but, c'est qu'il y ait une vigne belle qui pousse. Ça, c'est le côté vivant de l'Église, c'est le vrai cœur de l'Église. Ça, c'est les hommes et les femmes et les enfants qui constituent l'Église, qui sont cette vigne-là. Et le problème, c'est que quand vous avez des responsables d'Église, etc., le temps, il n'est pas infini. Du coup, on est obligé de partager le temps qu'on a ensemble. Et là, il y a des priorités à donner. Il y a des priorités à donner parce qu'on est obligé de faire attention dans la croissance de l'Église que le tri ne prenne pas le dessus sur la vigne. Il y a clairement une priorité sur la croissance des personnes. Pour que ça puisse, qu'on puisse s'organiser, il y a besoin d'un tri. Le tri n'est pas mauvais en soi, les réunions ne sont pas mauvaises en soi, mais il ne faut pas perdre de vue qu'à la fin, ce n'est pas la réunion qui prime. Ou ce n'est pas les comités, ou ce n'est pas les événements qui priment. Ce n'est pas parce que votre fête de Pâques est de plus en plus belle, que le spectacle de Noël est de plus en plus fantastique, qu'on a forcément quelque chose qui va bien. C'est qu'est-ce qui se passe au niveau des gens. Si vous faites des événements dans une église qui épuise l'église, qui au fur et à mesure des années, c'est de pire en pire, et qu'à la fin, toute l'église sera complètement à plat de chaque truc, ça ne veut pas dire que c'est mauvais en soi, mais il y a forcément des choses à réfléchir. Parce que c'est les personnes. Alors, il y a toujours des buts louables, c'est le but d'évangéliser, d'amener, etc. Mais il y a un équilibre à trouver qui est très important, et de ne pas perdre de vue la croissance des personnes, et les personnes, c'est prioritaire. Ça veut dire que dans les budgets d'une église, etc., il y a plein de choses à voir. Dans s'occuper des personnes, il y a plein d'aspects. Je n'ai pas le temps de les développer, mais j'en cite juste deux. Et la question du temps qui est mis dans la relation d'aide dans une église. Il y a des gens en souffrance, il y a des gens en difficulté, des couples. Il y a de la prévention et de la difficulté à gérer. Toute église, et plus on est nombreux dans une église, plus on est une équipe de bras cassés. Hein, et plus il y a des problèmes. C'est comme dans le couple, hein, on additionne des problèmes. Il y a la force collective, mais il y a cette réalité que ça, c'est qu'une église qui grandit, elle a de plus en plus de problèmes à gérer. Et elle a besoin de les gérer, avec l'aide évidemment du Saint-Esprit et du Seigneur. Et la question de comment s'organise la relation d'aide, l'aide dans l'église, le soutien, l'amour en action dans une église, c'est absolument fondamental. Peut-être qu'il faudra supprimer quelques activités, parce qu'il y a besoin de s'occuper des personnes. C'est possible, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour tout gérer. Il y a des choses qui sont optionnelles, qui dépendent des fois d'une personne qui a ses... Faire de l'histoire et foi dans une église, vous savez que je vibre pour les thématiques de histoire et foi, mais ça reste optionnel quand même dans une église. Pourtant, c'est un magnifique outil, ça peut servir à plein de choses. Mais bon, ce n'est pas forcément la priorité. Pourtant, ça peut être utile. Un autre aspect de croissance de personnes, c'est les questions de formation. Combien de temps on passe à s'occuper des personnes? Combien de temps, peut-être que vous enseignez dans l'Église depuis 40 ans. Vous prêchez avec des dons que Dieu vous a donnés, et il y a du fruit de votre prêche. Est-ce que vous avez pensé à transmettre à un jeune dans votre Église, de lui expliquer comment vous faites une étude biblique, comment vous préparez un message, comment, par l'inspiration de l'Esprit, le dimanche, tout à coup, en fait, tout ce que vous avez préparé, ça sert, en réalité. Ce n'est pas juste pour garder pour vous, ça. La question de formation est importante. Dans les budgets d'église, est-ce qu'on a pensé... Alors, on soutient des missionnaires, c'est une excellente chose, mais y a des jeunes à envoyer à l'IEB. Un superbe outil. Mais les jeunes, ils ont besoin de sous pour pouvoir y aller. Est-ce qu'on a pensé à une église à peut-être se dire, tiens, on a assez de sous pour financer un an la formation d'un jeune à l'IEB. Et de se dire dans l'église, mais à qui je pourrais en parler dans mon église? Il y a une vision de transmission, il y a une vision de formation, et c'est s'occuper ça des personnes. Parce que miser sur la formation des personnes, c'est de la maturité, parce que en fait, c'est indissociable. Quand vous formez quelqu'un, ce n'est pas juste pour qu'il ait des compétences techniques. Vous êtes en train de parler de votre expérience de vie. Si vous expliquez à quelqu'un comment vous étudiez un texte biblique, vous allez lui transmettre un part de votre vie de piété et d'expérience avec Dieu. C'est pas juste une question technique. C'est une question de vrai passage de grand frère à plus jeune, de grande sœur à plus jeune, de relais, il y a des mots techniques, de discipula, de faire des disciples dans une église. Cette notion de transmettre, vous avez le magnifique verset de 2 Timothée 2:2, hein, ce que j'ai reçu, hein, ce que tu as reçu de moi, transmets-le, c'est Paul qui parle à Timothée, à des gens qui sont capables eux-mêmes de le transmettre à d'autres. Vous avez 4 générations de personnes dans un même verset. C'est un peu tout ça, prioriser la croissance des personnes. Et c'est très important. J'aimerais finir avec juste quelques outils. On va juste m'indiquer sur l'horaire, Guillaume.
Très bien.
OK. Donc, la question des outils, ça peut être que des exemples. Parce qu'il n'y a pas une liste... si on parle d'outils, justement, c'est qu'on n'est pas dans... On est juste dans des choses qui peuvent se mettre en place... mais qui ne perdent pas de vue toute la priorité qu'on a exposée en avant, des choses qui doivent être christocentrés qui ont pour but de cette croissance spirituelle de l'Église, celle que décrite en Éphésiens. J'ai choisi de vous montrer trois outils qui, dans notre expérience de vie d'Église à Marseille, ont été utiles et on en a vu du fruit. La question d'une vision et d'un projet d'Église. Ça peut faire peur parce que ça fait un peu peut-être entreprise ou objectif, et on aura raison de se méfier de ce genre de choses, ou bien de recommandations de livres qui pourraient venir de outre-Atlantique, dans lesquels on a raison, sans doute, de bien trier les choses. Le contexte anglo-saxon et américain n'est pas le nôtre. Du coup, il y a beaucoup de choses sur la croissance. Vous avez énormément de livres sur la croissance de l'Église, mais il y a beaucoup de choses à trier pour que ce soit des choses réellement adaptables dans notre contexte français, réellement. Mais, par exemple, une question de vision et de projet d'Église. C'est vrai que pour question de définir des priorités, de définir notre identité en tant qu'Église locale, c'est bien qu'en tant que collectif, on sache qu'on vit. Bien sûr qu'on sait tous qu'on se réunit pour la gloire de notre Seigneur, pour le louer, pour se souvenir de son œuvre, pour être un témoignage local de son œuvre dans la localité où on aura été placé. Tout ça, c'est vrai, et le fait de faire une vision et un projet d'Église, c'est pas en train de mettre ça de côté. Tout ce que je viens de dire là, c'est central. Simplement, ça peut-être se concrétiser dans votre contexte local. Votre organisation de vision et de projet ne sera pas la même si vous êtes dans un quartier plein de prostituées en grande ville, dans lequel on va peut-être définir une vision de cible de personnes peut-être différemment que si on est un peu plus dans une zone rurale, dans lequel il y aura d'autres challenges, il y aura d'autres priorités, et on n'aura pas la même passé et la même identité commune. Par exemple, là, on a défini, vous allez voir, c'est des choses qui sont très... pourraient s'appliquer, ça fait un peu généraliste, une Église qui grandit, des chrétiens qui avancent, se forment et qui servent, des chrétiens qui vivent et témoignent de leur foi. On a voulu mettre là-dedans, dans cette Église qui grandit, déjà pas juste montrer qu'on voulait que de la quantité, qu'on était dans un objectif de méga-church, c'était pas notre objectif, et du coup on veut bien le définir. Dans des chrétiens qui avancent et qui se forment. On a mis « se forme », ça veut dire que, oui, dans le budget de l'Église, il y a un budget, on va mettre des priorités dans la formation. On va encourager à ce que les gens aillent se former. On va organiser des formations dans l'Église. Ça va se traduire par des outils concrets. Là-dedans, et parce qu'on se dit que dans le contexte où on est, les gens qui composent cette Église, c'est quelque chose qui a une place et une réalité. Vous voyez un espèce de cercle, vous avez Cep Saint-Loup, c'est l'Église, c'est le lieu physique, et on se rassemble, et c'est orchestré et centralisé par le culte du dimanche. Et puis on a mis contact autour, là, comme une fleur. Ça veut dire qu'on se dit que notre but, c'est pas simplement que les frères et sœurs, quand ils ont un collègue avec qui ils parlent, ou un ami, un voisin, notre but, c'est qu'ils les amènent au culte. C'est ça qu'on veut mettre par contact près de la fleur centrale. On s'est dit, tiens, on ne les fait pas forcément rentrer par juste un groupe de bonnes relations, un groupe de maison, etc., ou de la convivialité d'abord. Tiens, on aimerait que, quand on témoigne à un voisin, etc., on ait en idée en tête de se dire, tiens, viens avec moi voir ce qu'on vit dans un culte. Et on l'a centralisé là-dedans. Et puis, on s'est dit, tiens, il y a un besoin de communion fraternelle avec l'Église qui grandit. On a besoin de groupes de maison pour vivre par quartier. Marseille, c'est grand, on n'est pas sur tout Marseille, mais même dans la partie où on est, c'est trop grand. On n'est pas voisins les uns des autres. Et il y a des quartiers. Donc on a besoin de vivre aussi quelque chose dans des groupes de maisons. On a dit groupes de maisons, c'est donc important. Donc, dans l'emploi du temps de l'Église, le planning annuel, ça prend une réalité. Et puis vous avez des missions qui sont là, qui partent. C'est-à-dire qu'on a dit, oui, il y a un moment, on sera prêt à que des frères et sœurs de notre Église, qu'on aimerait peut-être d'abord garder pour nous, on sera prêt à les encourager dans un projet de mission peut-être en France ou peut-être bien plus loin. On a essayé de traduire ce qu'on voulait vivre ensemble autour de ces valeurs. Alors vous allez dire, il y a des milliers d'églises qui pourraient faire le même schéma. Simplement, rien que le fait de le réfléchir ensemble et de le mettre sur papier, ça permet de se centrer autour de tout ça. Ça veut dire aussi que les activités de l'Église, on va se dire, mais en quoi elles rentrent dans cette vision ? On pourrait faire des tas de choses en termes d'activité d'Église. Ben dans la définition de nos priorités, la question c'est, est-ce que ça rentre là-dedans ? Alors ça ne veut pas dire que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, on changera de vision. Mais Pour l'instant, ça veut dire que dans la gestion de l'emploi du temps et des priorités, etc., on vérifie que ça rentre là-dedans. Sinon, on se dit, ben, on n'y arrive pas à investir sur tout. C'est un exemple d'outil. Un deuxième, et vous l'avez vu avec la centralité du culte, c'est la notion de culte, culte évidemment, mais culte accessible. On s'est dit, dans notre configuration, il nous faut un culte où y a quelque chose qui puisse s'adapter. Alors, là, il y a plusieurs choses. On a tendance à dire, on a un problème quand on aborde cette question de culte accessible, parce que soit on arrive à formater un culte pour les gens qui sont habitués, peut-être depuis des dizaines d'années à venir, et on se comprend, il y a des tas de choses implicites, et on fonctionne très bien. Soit on a envie de faire un culte, mais du coup, ouvert, et alors on se transforme en culte d'évangélisation, où on explique tout, mais le problème, c'est que ça ne devient plus adapté pour des gens, et ça nourrit plus les gens qui viennent depuis 30, 50 ans dans l'Église. On a l'impression qu'on doit faire un grand écart, et qu'on ne s'en sortira jamais. Parce que la problématique, c'est ça, c'est que dans un culte, vous avez des chrétiens matures, des chrétiens immatures, ou avec des connaissances bibliques minimes, ou avec un chantier de sanctification qu'on a tous, mais qui a, avec des problématiques réelles vécues présentement. Et puis vous avez des non-croyants, sans aucune culture biblique, qui peuvent être là dans l'assistance. Donc vous avez cet ensemble. Évidemment, ça va s'adapter à chaque configuration d'église. Mais si vous voulez quelque chose avec tout ça, et qu'on ne veut pas un culte qui soit uniquement un culte d'évangélisation, il faut trouver quelque chose qui puisse s'adapter. Donc le but est que tous comprennent le message de Dieu véhiculé, tous ressentent la présence de Dieu, tous expérimentent une communion fraternelle authentique et mettent en pratique après l'enseignement dans leur vie quotidienne. Je ne schématise pas avec une solution qui est le grand spectacle ou le grand show, ou etc. C'est une réflexion de dire comment on peut vivre ensemble un culte qui garde l'essence totale du culte et le but absolument du culte. Comment on peut y réfléchir? Et ça se réfléchit à l'échelle locale. Parce que ça dépend évidemment. Vous n'allez pas expliquer tous les mots des cantiques quand il n'y a pas une seule personne dans l'assistance qui ne les comprend pas. Quoique dans nos cantiques, je pense qu'il y aurait des fois besoin de petites définitions. Mais je pense qu'il faut... On ne va pas faire un truc parce qu'il faut être accessible, etc. Il n'y a pas de sens. Mais réfléchir à ça. Ça a une implication dans nos messages, dans l'exposition de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que le message va être devenu bébé ou simplifié ou que finalement l'enseignement n'a pas plus de consistance. Préparer un message ou exposer la parole de Dieu de manière compréhensible à toute l'assistance, c'est beaucoup plus compliqué de garder un patois de Canaan. C'est beaucoup plus facile pour nous de parler avec notre vocabulaire habituel que d'essayer d'adapter le même message, la même profondeur de vérité, avec quelque chose qui soit compréhensible. Message, nos chants, plein de réflexions. Ce n'est pas pour changer de chant, ce n'est pas que les chants ne devraient pas être jetés à la poubelle et qu'il faut forcément le dernier chant à la mode et que vous avez besoin tous de la batterie dans l'église. Je ne suis pas en train de dire ça du tout. Simplement, comment réfléchir à ça? Parce que même dans les jeunes ou moins jeunes dans l'église, en fonction de leur éducation, de nombre d'années où ils sont allés à l'école, il y a des choses qui sont difficiles à aborder, à comprendre dans les expressions qui sont employées. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va interrompre tous les chants, mais il y a peut-être, avant un chant, un frère qui pourrait expliciter une expression qui revient beaucoup dans un chant. Nous, on a par exemple l'expression « agneau de Dieu », c'est tel, on connaît, on sait ce que ça veut dire. Si dans la salle, vous avez des non-croyants, il faut absolument expliciter ce que ça veut dire. Si le chant, à toutes les strophes, ça vous parle de l'agneau de Dieu, il faut absolument qu'en introduction du chant, sans forcément prendre un tas d'heures, simplement, l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça que ça va vouloir... C'est quelque chose qui peut être un petit peu abordable. Alors peut-être vous allez faire juste en note, hein. Il y a peut-être une astérix sur un mot qui revient tout le temps, et il n'y a personne qui parle, et c'est écrit. Pourquoi pas? J'ai pas la solution magique. Mais ça, en tout cas, ça mérite d'être réfléchi. La conduite du culte, les annonces, l'accueil, il y a plein de choses qui sont à se réfléchir dans ce culte accessible. C'est bizarre pour les gens de notre société d'arriver actuellement dans une salle dans laquelle on ne vous dit pas bonjour. Ça fait bizarre. Quand on se connaît et qu'on pratique ça depuis des années, ce n'est pas un problème. On n'en est pas du tout choqué. Par contre, il y a quelqu'un qui, s'il vient vous amener quelqu'un, ça risque d'être un problème. C'est pas la transformation de notre culte, c'est simplement une adaptation à un culte accessible. Ça demande plein de réflexions qui ne sont pas des révolutions, qui sont simplement inclure et prendre en compte ça. Notre but n'est vraiment pas de penser que c'est nos modifications qui vont être l'œuvre et qui vont être à la source de la transformation des personnes. Simplement, on doit faire attention à ne pas être des obstacles dans notre façon de faire, des obstacles à quelque chose qui pourrait amener les personnes à effectivement à pouvoir plus facilement donner leur cœur à Jésus. Ce groupe de maisons, c'est mon dernier point d'exemple, que il me semble, oui. Hop. Les groupes de maisons, c'est vraiment intéressant. Surtout si l'Église commence à avoir un certain nombre de personnes, on parle du problème de ben, « on n'a plus le temps de parler », etc. Et puis, il y a une taille de l'Église où on peut prier pour tous les membres et les problèmes vécus dans le quotidien des membres de l'Église, à la réunion de prière de l'Église. Si vous êtes plus de 100, etc., ou 200 ou plus, c'est impossible de parler de tous nos petits problèmes et de chacun. Des trucs importants, quoi important. Tout est important dans la vie, mais qui sortent un peu plus de la norme, oui, mais c'est impossible communautairement de gérer tout ça. Pourtant, on a besoin de se confier et de prier les uns pour les autres. Dans une église, c'est fondamental. Un moyen de le faire et de le favoriser, c'est les petits groupes. Puis il y a des gens qui ne parlent jamais en grand groupe, et qui arrivent plus à s'ouvrir et s'exprimer en petits groupes, et c'est important. On a parfois des gens qui s'éloignent de la vie communautaire, de la vie d'église, et un petit groupe, des fois, si on est nombreux, on ne s'en aperçoit même pas, ou c'est après plusieurs mois qu'on s'aperçoit que la personne ne fréquente plus l'église. Et on n'a pas pris de nouvelles. En termes de veille de l'église, les petits groupes permettent effectivement de favoriser ça. Les objectifs de groupes de maison, alors dans notre église, on a fixé ça. Il y a un but de découvrir et de connaître la Bible, c'est-à-dire qu'il y a une étude biblique qui s'alterne avec une soirée de prière. Exposer la Bible en petits groupes, ça reste aussi quelque chose qui est important. Bâtir un relationnel fort, c'est important. Marier vérité et réalité, c'est important. Il faut que nos messages à l'Église, notre exposition de la parole est une question de pratique. Il faut que ce qu'on en expose de la parole, le but c'est que ça transforme et que ça fasse quelque chose dans nos vies, concrètement. Mais des fois, on n'a pas le temps de développer outre mesure, etc. En petit groupe, c'est facile de revenir plus facilement sur dans ta vie et d'y revenir et d'échanger et les uns avec les autres sur les implications peut-être du message qui a été donné le dimanche. Évidemment, petit groupe favorise les prières les uns pour les autres et le soin les uns pour les autres. Alors, il y a sans doute des tas de façons de vivre ça dans une église, mais clairement, en parallèle de la question de croissance de l'église, ces questions-là me semblent importantes. Alors, juste pour, avant de conclure, quelques livres. Alors, j'ai mis ces deux livres de Schwartz parce qu'ils sont très connus. Ce n'est pas que j'en recommande particulièrement, c'est pas, toute la lecture, c'est simplement dans ces livres qui est exposé ce fruit des enquêtes des années 90 sur l'Église de Christian Schwartz. J'ai mis deux livres qui sont beaucoup plus récents, de Chris Short, qui est à la retraite maintenant, c'est un pasteur baptiste d'une église dans l'agglomération parisienne, à Pontault-Combault, qui, c'est intéressant, expose dans ses livres plutôt un partage d'expériences, plutôt qu'aussi d'asséner toute une collection de comment il faut faire. C'est exprimé sous la forme de vraiment une expérience qu'ils ont vécue dans leur église. Ce n'est pas pour nécessairement transposer le modèle de l'église de Pontault-Combault, qui a vécu une expérience particulière de croissance numérique et de maturité spirituelle. En quelques années, on va dire en 20 ans, cette église, c'était un groupe de maisons qui est passé à plus de 600 personnes dans la région parisienne. Et c'est intéressant de voir un peu une église qui a vécu des tas d'étapes de croissance et effectivement de voir un petit peu leur expérience. Il y a quelques temps, ils faisaient même des séminaires dans leur église. J'ai pu y participer lors de leur formation. Monter à Paris, voir un peu comment ça fonctionnait. Ils sont très ouverts aussi. C'est des gens absolument, absolument accueillants et qui vivent beaucoup des critères de qualité d'une église. Et Chris Short, vraiment, est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à ce sujet. L'essentiel dans l'église, apprendre de la vigne et du treillis, très intéressant. C'est fait par des pasteurs qui ne fonctionnent pas dans le type d'église comme nous. C'est vraiment l'église, à la base, un peu pyramidale avec le pasteur. C'est l'église réformée. Mais c'est très intéressant, la réflexion, même en tant que, justement, fonctionnement pyramidal, comment ils ont réfléchi à ce soin de la vigne et les notions aussi de comment prioriser dans les formations, etc. C'est un livre extrêmement intéressant, c'est une traduction, mais c'est vraiment très intéressant. Et puis, ça, c'est aussi un livre intéressant. Une autre expérience de vie d'église traduite en livre, c'est Tim Keller. C'est l'expérience de la vie, d'une vie d'église très urbaine, c'est à Manhattan, c'est leur église à New York, qui a aussi réfléchi beaucoup à ces sujets, notamment dans la problématique d'intégration dans une société, en restant une église entièrement centrée sur Christ et sur l'Évangile. Comment s'adapter à une civilisation urbaine, moderne, et fonctionner dans un type d'église qui reste complètement centrée sur l'Évangile. C'est intéressant de voir comment réfléchir dans chacune des événementiels d'une église, comment rester collé et centré sur l'Évangile. C'est un livre vraiment qui a un grand intérêt. La dynamique d'un ministère équilibré au cœur des villes d'aujourd'hui. Alors, ça a quelques années maintenant, mais ça reste un livre de référence sur le sujet. J'aimerais conclure avec cette expression tirée de plusieurs, une combinaison de plusieurs versets, qu'on pourrait exprimer comme une prière dans ce sujet de croissance de l'Église, que nous soyons fortifiés par sa grâce en bâtissant, bâtissons, on va dire ensemble, bâtissons l'Église de Jésus-Christ. C'est une Église, c'est une expression pour chaque Église locale, mais de notre Église, ce qui nous rassemble de manière universelle, dans nos réseaux d'Église, ça veut à la fois exprimer en priorité le fortifier par sa grâce, le côté indispensable de ne pas penser qu'on peut y arriver tout seul. On a absolument besoin que ça soit le Seigneur qui drive tout ça. Et ça se traduit dans les choses concrètes, la vie de prière de l'Église, comment les responsables restent dans une fidélité au Seigneur et quelque chose qui porte l'Église devant le trône de la grâce de Dieu. Et cette motivation de bâtir l'Église de Jésus-Christ, non pas pour dire que c'est nous qui, encore une fois, on a mis en priorité le Seigneur qui bâtit, mais quelque chose dans lequel on est associé à tout ça pour bâtir cette église qui n'est pas l'église de moi, de un tel, de Paul, de Pierre ou de Jacques, mais qui est l'église de Jésus-Christ. Inspiré de ces versets, qu'il vous donne d'être fortifié en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est le but de la croissance de l'Église. Le Dieu des cieux, lui, nous fera prospérer, et nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. C'est un verset de Néhémie, dans lequel, magnifique exemple, dans lequel on voit combien Néhémie reste complètement collé et fidèle à Dieu et complètement dépendant de Dieu, juste avant de s'adresser à l'empereur qui aurait pu lui faire couper la tête en deux-deux pour lui exposer son projet. Il y a la prière flash de Néhémie. Bon, il n'a pas fait que la prière flash. Il a mis 4 mois de jeûne et prière avant d'aller voir exposer son projet à l'empereur. Et au moment de se lever, de l'opportunité, cette prière flash de demander à l'aide de Dieu. Et en même temps, levons-nous. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Il y a besoin de se mettre en marche. Il y a une question de motivation et effectivement de dépasser un risque d'endormissement ou que les difficultés, c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'y arrivera pas. On pourrait reprendre des expressions modernes de politique, mais pas pour ça, mais pour l'appliquer à cette motivation pour l'Église. Et je termine par le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent en vain. C'est fou. Dans les petites expériences de vie d'église, de ce qu'on vit ces derniers mois dans notre église à Marseille, si on regarde les gens qui sont fait baptiser dans l'église ou qui vont se faire baptiser dans les mois qui y arrivent, quelle est la contribution de l'église locale dans ce miracle et dans cette réussite chiffrée de dire « Waouh, il y a eu des baptêmes cette année », etc. Et on se réjouit de tout ça. Ben, je vais vous parler d'une Natacha qui un jour nous a été déposée devant l'église. Elle est malade, elle est soignée à l'IPC pour un cancer, elle a rencontré Christ, occupez-vous d'elle. On n'a rien fait, elle a été déposée à l'église. Et cette sœur a grandi dans le Seigneur de manière exceptionnelle. Qu'est-ce que l'Église a fait ? Rien du tout. Elle a été déposée. Elle a été déposée à l'Église. La semaine dernière, il y a un jeune de l'Église, un pompier, qui arrive à l'Église, s'était largement éloigné du Seigneur. Le Seigneur il a senti l'appel de venir dans une église à Marseille. Il atterrit un peu par hasard, avec un grand H, dans l'Église. Et au final, ça fait un an que... c'est pas qu'on travaille d'arrache-pied à le convertir, mais presque. Il a fait tous les programmes de formation de l'Église, il y a communion, il est dans les groupes de jeunes, tout est encadré, tout est tactiquement, stratégiquement parfait là-dedans, sauf qu'il est à la porte de la famille de Dieu, il est là, mais pour l'instant, quand on lui demandait mais où tu seras dans l'éternité, il n'était pas capable de dire qu'il allait être avec le Seigneur pour l'éternité. La semaine dernière, il a fait un camp dans notre bonne Haute-Loire, à Teen Ranch, et c'est une sœur d'une église qui n'a rien à voir avec nous, qui a recueilli les fruits, qui a permis, par son intermédiaire, de recueillir le pas que tout le monde attendait depuis tant de temps. Et je pourrais défiler comme ça des choses extraordinaires de tout ça. Dans cette dernière année, les 80% des exemples de personnes qui ont avancé comme ça avec le Seigneur pour aller sur le baptême. L'Église, il n'y a absolument pour rien, mais absolument pour rien. C'est le Seigneur qui bâtit. Voilà, c'est sur ça que je voudrais, et j'espère sur des mots encourageants, que j'aimerais terminer. On pourra remettre ça à la prière avec le Seigneur, et puis on peut échanger. Peut-être qu'on a quelques minutes pour échanger.